Ruth chapitre 3. On ne lira pas tous les versets parce qu'il faudrait lire chapitre 3 à partir du verset 6 jusqu'au chapitre 4, verset 12. Mais on va le voir à travers le message ce matin, on va voir ces passages. Donc, ça va nous éviter de répéter à nouveau une deuxième fois les passages. Le titre de mon message ce matin, c'est « Dieu dans son amour, Dieu nous a rachetés ». Amen. Ah, Dieu nous a rachetés. Et je pense que c'est important qu'on s'en souvienne. Il ne nous a pas achetés, il nous a rachetés, nous dit le texte biblique. Alors, Pepe Bliss a écrit de nombreux cantiques chrétiens, et alors qu'il allait rejoindre Dwight L. Moody dans une campagne d'évangélisation, lui et sa femme trouvèrent la mort dans une catastrophe ferroviaire au mois de décembre 1876. Parmi les effets personnels des Blitz, on retrouva une suite de mots écrits sur un papier avec comme en tête ces deux mots, « Mon rédempteur ». Cette suite de mots devint par la suite un des cantiques les plus appréciés dans l'Église, en tout cas du côté anglo-saxon. Et lorsque je lis cette partie du livre de Ruth, eh bien les paroles de ce cantique anglais me reviennent en tête. Je vais vous dire en français, je vais juste vous dire deux strophes. C'est écrit « Je chanterai mon rédempteur et son merveilleux amour pour moi. En devenant objet de malédiction à ma place, il m'a délivré de la malédiction de la loi lorsqu'il fut crucifié sur cette croix. » Deuxième strophe. Je chante le nom de mon Rédempteur, car il m'a racheté par son sang précieux. Il a scellé mon pardon sur la croix, car il a payé ma dette et je suis libéré. Il n'aurait plus rien à dire après avoir lu ces deux strophes. Hein? Tout est complet, quoi. Et on a devant nous ce matin une merveilleuse illustration de ce que notre Rédempteur, le Seigneur Jésus, a fait pour nous et comment il a payé notre dette pour nous libérer du pouvoir que les péchés exerçaient sur nos vies, et ce, à travers l'histoire de Boaz, qui, en tant que parent rédempteur, a racheté Ruth. Et la semaine dernière, eh bien, nous avons examiné en quoi consistait le rôle d'un parent rédempteur. Et cette semaine, eh bien, permettez-moi de vous rappeler que c'est le seul exemple de parent rédempteur que nous avons dans la Bible. Et j'aimerais partager avec vous ce matin, pendant quelques instants, sur le thème de l'amour de Dieu. Dieu nous a rachetés dans son amour, et il l'a fait à travers la personne de Jésus-Christ. Et si vous êtes sauvés ce matin, j'espère que cela vous aidera à apprécier davantage ce que Jésus a fait pour vous. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, j'espère que ce message suscitera en vous ce désir de vouloir être racheté. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va remettre ce message entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, c'est vraiment en implorant ton aide, Seigneur, et notre incapacité à parler, Seigneur, en ton nom que nous nous présentons devant toi. Seigneur, ce matin, nous voulons que ton Saint-Esprit s'adresse au cœur de chaque personne ici présente. Seigneur, toutes ces personnes qui sont là ce matin, eh bien, nous savons que ce n'est pas le fruit du hasard, c'est toi qui les as invités. Et ce rendez-vous, Seigneur, eh bien, tu l'avais prévu depuis toute éternité. Seigneur, nous savons que tu nous aimes tous d'un amour égal et que pour chaque personne ici présente ce matin, à travers ta parole, dans ce qui sera exprimé, tu as une portion en réserve pour chacun de nous. Seigneur, nous ne sommes pas entrés dans ce lieu ce matin pour assister à un spectacle, pour participer à un concert, mais pour que le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé toutes choses, puisse parler à nos cœurs, puisse nous fortifier, puisse nous consoler, puisse nous encourager, puisse nous faire grandir dans notre foi et dans la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous te prions, Père. Amen. Les versets chapitre 3, les versets 9 à 18, eh bien, si Ruth avait besoin d'un parent rédempteur, c'est-à-dire quelqu'un capable de le racheter, hein, pour ceux qui ne sont pas habitués au langage évangélique ni au langage biblique, un rédempteur, c'est un sauveur. Un rédempteur, c'est un libérateur. Et c'est des synonymes. C'est ici, en tant que rédempteur, eh bien, si Ruth avait besoin d'un parent rédempteur, c'est-à-dire quelqu'un qui avait la capacité de la racheter, eh bien, frères et sœurs, il en est de même pour nous. La loi a pourvu pour elle, et le Seigneur a aussi pourvu pour nous quelqu'un de capable de nous racheter. Amen! Quelqu'un capable de nous racheter. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu, parce qu'en rejetant un coup d'œil sur la terre, Dieu ne pouvait pas trouver personne de qualifié pour nous racheter. Mais il se tourne et il voit son Fils. Lui seul est qualifié pour nous racheter. Lui seul est sans péché. Lui seul est capable de respecter, de répondre aux exigences de la loi. Et il vient, et dans son amour, eh bien, il vient s'offrir un sacrifice pour des gens souvent qui ont vécu, qui se sont moqués de lui. Pour des gens qui ont vécu en baignant dans le péché. Pour des gens qui ont vécu pendant un certain temps de leur vie sans pouvoir rien savoir de lui. Christ est quand même mort pour lui. Alors que nous étions tous pécheurs, Christ est mort pour nous. Quelle grâce merveilleuse, frère, ça. Quelle grâce. Quel amour. Quel amour. Dieu pourvu pour nous. Rédempteur. Quelqu'un capable de nous racheter. Et la première chose qu'elle va faire, Ruth, ici, c'est de demander, de le demander. Frères et sœurs, autant que Ruth, que pour nous, quiconque désire être racheté doit le demander. Nous lisons 6 à 9 ici. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu? » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Elle lui dit, « Frères et sœurs, tu as droit de rachat. » Elle reconnaît que Boaz est un parent et qu'il peut être son rédempteur. Elle va donc demander qu'il soit son parent rédempteur. Et ce matin, si vous n'avez jamais fait cette expérience avec Jésus-Christ, vous n'avez qu'à demander, comme Boaz, demander. C'est gratuit. C'est gratuit. Même pour aller aux toilettes ici en Belgique, il faut payer. Mais ici, c'est gratuit. Tout est gratuit. Il n'y a plus rien de gratuit dans notre monde, mais ici, c'est gratuit. Vous demandez gratuitement, Dieu vous donne. Regardez ce que Ruth dit ici. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Ce qu'elle faisait n'avait rien de particulier, car c'était la coutume à cette époque que quelqu'un demande à quelqu'un d'autre d'exercer son droit de rachat. La loi avait prévu. Elle demandait donc à Boaz d'être son rédempteur. Et nous voyons ici que Ruth demande juste ce qu'elle a besoin, d'être rachetée. C'est tout ce que nous avons besoin, frères et sœurs. Ça commence par là, le rachat. Remarquez jusqu'à quel point le salut est aussi simple à demander. Jésus-Christ a fait tout ce qui est nécessaire pour sauver l'âme du pécheur perdu. Tout ce qu'un pécheur doit faire, c'est venir devant lui dans un esprit d'humilité et demander qu'il lui accorde le salut. Demandez, et il vous sera donné. Celui qui me cherche me trouve, dit le Seigneur. Demandez. On n'ose pas demander, et on ne reçoit pas. Osons ce matin. Osez où vous êtes ce matin. Demandez. Ruth a fait cette demande et Boaz a répondu. Verset 11. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. De la part de Ruth, frères et sœurs, c'était aussi simple que cela. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était de demander. Et lorsqu'elle a demandé, Boaz, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit oui. En ce qui nous concerne, le salut est aussi simple que cela, frères et sœurs. Il suffit de le demander. Jésus a dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Si nous le demandons, si vous lui demandez ce matin, il vous acceptera. Amen. Et heureusement que le salut de Jésus-Christ, eh bien, ne fait pas référence, ne se limite pas à la couleur de peau, ne se limite pas à la langue qu'on parle. Il est accessible à tout le monde. « Je ne mettrai point dehors quiconque, dit Jésus. » Celui qui vient à moi. Si nous nous demandons, il nous acceptera. Le salut est aussi simple que cela. Nous reconnaissons que Jésus est le seul capable de nous racheter de nos péchés et nous demandons qu'il soit notre rédempteur. Quiconque fait cette demande à Jésus ne l'entendra jamais dire non, car tout homme qui fait appel au Seigneur sera sauvé. Nous voyons aussi que Ruth avait la certitude d'être rachetée parce que Boaz avait fait trois choses. Les versets 10 à 18. Verset 13 d'abord, il lui avait fait une promesse. « Passe ici la nuit, et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, dit Naomi, à la bonne heure qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi. Boaz qui dit ça. J'en userai moi l'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. » Boaz lui a assuré qu'il utiliserait, qu'il userait de son droit de rachat. Il a promis qu'il s'occuperait de tout. Ruth n'avait qu'à se reposer sur sa promesse qu'il la rachèterait. Après que Ruth eut fait sa demande, qu'est-ce qui arrive ici? Elle est rassurée par les paroles de Boaz. Il veut qu'elle sache qu'elle peut compter sur lui. et sur la rédemption ou le rachat qu'il fera pour elle. Il lui promet, verset 13, il lui promet de faire tout ce qui doit être fait pour la racheter. Frères et sœurs, on peut avoir la certitude qu'en Jésus-Christ, Dieu a tout fait pour nous racheter. On n'a rien à faire pour en rajouter une couche, pour augmenter finalement la valeur de notre salut. Dieu, en Jésus-Christ, a accompli tout en Jésus-Christ. Ruth n'avait qu'à se reposer sur sa promesse qu'il la rachèterait. Et il en est de même avec nous pour Jésus. Il a fait tout ce qui était nécessaire pour faire le rachat et de faire en sorte que le rachat devienne une réalité pour quiconque fait appel à lui par la foi. N'est-il pas écrit, « Celui qui croit en lui a la vie éternelle, que l'homme croit dans son cœur et que Dieu le rend juste devant lui. » Frères et sœurs, parce que Christ a accompli ce que Dieu voulait, nous sommes purifiés par l'offrande qu'il a faite de son propre corps une fois pour toutes, nous dit les Écritures. Et nous savons ensuite qu'il s'est assis à la droite de Dieu. Ainsi, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui l'a dit, « Par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont purifiés du péché. » Rendu parfait pour toujours ceux qui sont purifiés du péché. Et ce passage parle du prix que Jésus a payé pour nous racheter. Il a payé avec son propre sang et nous savons que les péchés ne sont pardonnés que si du sang est répandu. On peut le dire en français courant, dans un langage très, très courant, il veut dire que du sang a été versé. Il a donné sa vie, quoi. Il a donné sa vie. Et c'est vrai que quand on vient pour chanter le matin, quand on vient pour louer le Seigneur, c'est vrai qu'on est ému, c'est vrai qu'on est touché au plus profond de nous-mêmes quand on s'aperçoit de la profondeur du sacrifice que Jésus a accompli. Quand on regarde la profondeur du geste que Jésus a accompli, ça nous permet d'avoir la profondeur de l'amour que Dieu a pour chacun de nous. Il n'y a personne qui l'a forcé à monter sur la croix. Il a dit, il n'y a personne qui me prend ma vie, c'est moi qui la donne, quoi. Et je la donne parce que je vous aime. Je la donne parce que j'ai choisi que vous passeriez une éternité avec moi. Demande si tu veux recevoir cette vie ce matin. Demande. Il est venu sur la croix, pas pour les justes, pour les pécheurs. Tu n'as qu'à reconnaître que tu es pécheur. Demande ce matin. Demande son pardon. Confesse ton péché. N'est-ce pas merveilleux? Frères et sœurs, nous avons besoin de nous rappeler à quel prix nous avons été délivrés d'une inutile manière de vivre que nous avions hérité de nos ancêtres. Ce n'est pas au moyen d'objets qui perdent leur valeur comme de l'argent et de l'or. Non, on a été délivrés par le sacrifice précieux de Jésus-Christ qui a été comme un agneau sans défaut et sans tache, frères et sœurs. Si on avait dû mettre de l'argent ou de l'or sur ce sacrifice, la terre entière n'aurait jamais suffi pour contenir tout l'or et tout l'argent qu'il y a pour payer ce prix. Ça n'a pas de prix, ce sacrifice. C'est le prix c'est la vie du Fils. C'est la vie de Jésus, frères et sœurs. Ce qu'on réalise ou c'est devenu une banalité pour nous, une routine, parce que ça fait longtemps qu'on est dans l'Église et puis qu'on entend toujours ce message. Mais frères et sœurs, est-ce que Jésus est simplement un nom pour vous, une réalité dans votre vie? Est-ce que Dieu est simplement un nom pour vous ou une réalité dans votre vie? Est-ce que vous sentez, vous ressentez vraiment qu'il est présent au milieu de nous ce matin, mais aussi dans votre cœur ce matin? Est-ce que vous vivez cette relation avec Jésus-Christ ou une religion avec Jésus ce matin? Est-ce que vous venez à l'église le dimanche de peur de ce que les gens vont penser si vous ne venez pas ou si vous venez à l'église parce que vous savez que le Seigneur Jésus est présent, qui vous a donné rendez-vous et que vous vous rassemblez avec le peuple de Dieu pour louer la grandeur de notre roi, pour louer la grandeur de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ça fait partie de la mission de l'Église évangélique, frères et sœurs. Le bâtiment, il est là pour nous protéger des intempéries. On sait très bien que le bâtiment, ce n'est pas l'Église. C'est vous qui êtes l'Église. La pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Vous êtes les pierres que semaine après semaine, jour après jour, Dieu rajoute sur cette pierre angulaire des pierres vivantes, dit l'apôtre Pierre. Alors, frères et sœurs, j'espère que Jésus-Christ est une réalité, non pas seulement un nom pour vous ce matin, parce qu'il veut accomplir des choses extraordinaires à travers vous. Il a dit, celui qui croit en moi fera, qu'est-ce qu'il a dit? Fera. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais auprès du Père. De plus grandes. On a regardé ça, ma crédibilité biblique. De plus grandes parce que je m'en vais auprès du Père. Il m'est arrivé d'entendre des gens qui disaient, si je fais de mon mieux, alors cela devrait être suffisant parce que c'est tout ce que je peux faire. Nous savons que faire du mieux que nous pouvons ne suffit pas. De plus, il n'y a rien que nous pouvons faire. Le salut n'est pas basé sur ce que nous faisons, mais sur ce que Jésus-Christ a fait. Ce que nous avons à faire, c'est demander. Et le reste repose entièrement sur lui. Jésus a pris soin de tout ce qui devait être fait pour nous racheter et nous n'avons qu'à nous reposer sur ce qu'il a fait. Ruth avait la certitude d'être rachetée parce que Boaz avait fait une deuxième chose. Versets 15 à 17. Et il ajouta, « Donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. » Elle le tint, il mesura 6 mesures d'âge pour qu'il chargea sur elle, puis il rentra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère, et Naomi dit, « Est-ce toi, ma fille? » Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, « Il m'a donné ses 6 mesures d'orge en disant, « Tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. » Lorsque Ruth quitte l'aire de battage le lendemain matin, elle quitte avec les promesses de Boaz, mais elle quitte également sur les lieux avec 15 kilos d'orge qu'elle transportait sur ses épaules. Lorsqu'elle arrive à la maison, Naomi lui dit, « Est-ce toi, ma fille? » Et Ruth lui raconte tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, « Regarde ce qu'il m'a donné. » Il m'a donné 15 kilos d'orge en disant, tu ne retourneras pas vite chez ta belle-mère. Chers amis, le Seigneur donne de nombreuses preuves à ses enfants qui lui appartiennent. Il confirme que nous sommes ses enfants d'abord dans notre cœur en mettant sa marque personnelle sur nous, en nous donnant le Saint-Esprit qu'il avait promis. Et son esprit affirme lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. De plus, il nous garantit les biens qu'il réserve à son peuple. Intérieurement, le Saint-Esprit, extérieurement, des promesses pour nous, quoi. Il nous garantit les biens qu'il a réservés à son peuple. Il nous assure qu'ils les posséderont quand notre délivrance sera complète. Quelle promesse Dieu nous réserve pour l'avenir. Et heureusement qu'on ne sait pas tout ce qu'il nous réserve, parce qu'on n'aurait pas besoin de la foi, quoi. Si Dieu nous avait tout dévoilé ce qui se passe de l'autre côté, on n'aurait pas besoin de la foi, quoi. La foi est une forme d'assurance des choses qu'on espère. La foi, ouais. Et Dieu nous réserve des choses extraordinaires. Et on sait que Dieu n'est pas un menteur. On sait que Dieu n'est pas comme les hommes pour mentir. On sait que quand il parle, c'est la vérité. Que Dieu ne se renie jamais. Et que ce qu'il promet, il l'accomplit. Amen. Et j'espère que vous appuyez sur ces promesses-là ce matin. J'espère que dans votre cœur, vous avez la joie malgré tout ce qui peut arriver autour de nous. Malgré ce qui se passe dans le monde. J'espère que le diable ne vient pas vous voiler cette joie et cette paix que vous avez reçue de Jésus-Christ. Lorsque vous l'avez rencontré pour la première fois. Ensuite. La parole nous dit qu'il suit du regard ses fidèles, ceux qui comptent sur sa bonté pour les arracher à la mort et les garder en vie, même en temps de famine, dans un des psaumes. C'est pourquoi Jésus, tourne avec moi dans Matthieu chapitre 6, versets 31 à 34. On n'ira pas tout chapitre 6, on sait ce que ça contient, mais j'aimerais simplement relever les versets 31 à 34 ce matin. Jésus nous rappelle que nous ne devons pas nous inquiéter en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, avec quoi nous habillerons-nous. Ce sont les païens qui cherchent continuellement tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. La peine qui se présente chaque jour suffit pour la journée. Et c'est vrai, frères et sœurs, on a toujours l'impression, vous savez, tout le monde, en fait, sur la terre, tout le monde sait qu'un jour, ils vont mourir, mais la grande majorité des gens vit comme si jamais ils vont mourir. Et moi, je trouve que ces paroles de Jésus, quand vous commencez à la méditer, arrête de penser à demain, quoi, parce que tu ne sais même pas si demain, tu vas être encore en vie, quoi. Commence à vivre ta journée d'aujourd'hui. Et préoccupe-toi d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu va t'accorder le nécessaire. Dieu est ton Père, Dieu sait ce que tu as besoin. Mais arrête de te préoccuper demain ce que tu vas faire. Tu ne sais même pas si tu vas être vivant. Tu vas te coucher ce soir, tu ne sais même pas si tu vas te lever demain matin. Arrête de penser à demain. Arrête de planifier déjà tes vacances pour l'année prochaine. Aujourd'hui, pense à aujourd'hui. Et aujourd'hui, frères et sœurs, c'est aussi le jour du salut. Aujourd'hui, Dieu, encore une fois, ce n'est pas devant un trône de jugement qu'on se présente, c'est devant un trône de grâce, là où tous ceux qui veulent s'y approcher peuvent recevoir le pardon de Jésus-Christ. Aujourd'hui, ce qui compte, ce n'est pas ce qui va se passer demain, c'est aujourd'hui. J'ai lu hier dans le journal qu'en l'an 2032, il y a un météorite qui va frapper la Terre. Moi, je ne pense pas être encore en vie en 2032, Et en 2032, on va dire quoi? Qu'on s'est trompé encore dans les calculs. Mais vous savez qu'à partir d'aujourd'hui, il y a des gens qui vont vivre en fonction de 2032. Il y en a qui sont capables de dépenser une fortune pour se creuser un bunker à presque 10 000 mètres dans le fond de la Terre pour essayer d'éviter la collision. Frères et sœurs, le monde prévoit beaucoup de choses. Mais c'est Dieu qui est en contrôle des événements. C'est Dieu qui est en contrôle des choses. Et Dieu en Jésus-Christ, il nous dit aujourd'hui. Préoccupe-toi d'abord aujourd'hui. Ruth avait la certitude d'être rachetée parce que Boaz avait fait une troisième chose. Verset 18. Il l'avait rassurée par sa persévérance. Naomi dit à Ruth de rester tranquille parce que Boaz ne se donnera pas de repos jusqu'à ce qu'il ait terminé cette affaire de rachat. Boaz, c'est un persévérant, c'est quelqu'un qui persévère. Les enfants de Dieu peuvent se reposer en ayant la ferme assurance que Jésus-Christ ne se donnera pas de repos jusqu'à ce que chacun de ses enfants soit entré dans la maison du Père. Amen. Ah, frères et sœurs, autant il nous a aimés il y a 2000 ans, autant son amour n'a pas diminué pour nous aujourd'hui. Autant tout ce qu'il voit sur la terre, frères et sœurs, il veut que tous parviennent au salut. Il veut que tous parviennent à la repentance. Il veut faire en sorte que la famille de Dieu s'agrandisse, frères et sœurs. Et vous avez un privilège extraordinaire, parce que Dieu n'a pas demandé aux anges de le faire, il vous a demandé à vous de pouvoir transmettre ce message de l'Évangile. Le message de l'Évangile qui parle de la foi en Jésus-Christ. Les gens n'ont pas besoin de savoir comment nous on vit. Les gens ont besoin de savoir ce que Jésus, la transformation que Jésus a opérée dans nos vies. Quoi. C'est ça que les gens ont besoin de savoir. Raconte-moi le miracle que Jésus a fait dans ta vie. Raconte-moi. Raconte-moi ce qu'il a fait dans ta vie. C'est ce que je veux entendre. Quoi. Amen. Et ça, frères et sœurs, ça a un impact incroyable, ça, auprès des gens. Parce que la philosophie ne change pas le monde. Les religions ne changent pas le monde. La politique ne change pas le monde. Il n'y a rien qui change le monde. Il n'y a rien qui peut changer le cœur d'un homme en dehors de Jésus-Christ. Amen. Deuxièmement, les exigences du rachat. Verset chapitre 3, verset 12, jusqu'à chapitre 4, verset 1 à 10. Alors, afin que Boaz puisse devenir le rédempteur de Ruth, il y avait certaines exigences à remplir. Et là, on va regarder vraiment rapidement. On va voir le parent... Les exigences, finalement, qui étaient imposées aux parents rédempteurs. Boaz devait remplir certaines exigences importantes. La loi exigeait que le rachat soit fait par un proche parent. Allez pas dans Lévitique 25-25, je vais le lire, parce que on va essayer de rester dans Ruth. Il est écrit, « Quand un de vos compatriotes tombé dans la misère sera obligé de vendre une de ses terres, un de ses proches parents possédant le droit de rachat devra le racheter. » Malheureusement, on a expliqué tout ça la semaine passée. On a pris plusieurs minutes à expliquer tout ça. Mais c'était prévu dans la loi. Quoi. Boaz remplissait cette condition puisqu'il est écrit que Naomi avait un parent du côté d'Elimélec, son mari, chapitre 2, verset 1, et qu'il était un de ceux qui sont chargés de prendre soin de Naomi de Ruth, chapitre 2, verset 20 dans Ruth, ici. Boaz était un proche parent. Il remplissait donc cette première condition. Frères et sœurs, est-ce que le Seigneur Jésus rencontre cette condition en tant que rédempteur? Il est écrit... que celui qui est la parole est devenu un homme, et qu'il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, dit l'apôtre Jean, la gloire que le Fils unique reçoit de son Père. Et Paul rajoute, celui qui était Dieu est devenu un homme, il est devenu comme l'un de nous. Il est devenu un parent de la race humaine, frères et sœurs. Quelqu'un l'a dit dans sa prière ce matin, il est devenu notre frère. Il est devenu notre proche parent, en devenant homme. Et en cela, il est qualifié pour être notre rédempteur. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Celui qui existe depuis toute éternité s'est incarné dans un corps humain. Il est devenu semblable à nous et il s'est manifesté dans la vie des hommes, devenant ainsi un parent pour nous. Non seulement le rédempteur devait-il être un parent dans le texte ici, mais il devait avoir les ressources pour racheter. Il devait avoir non seulement de l'argent, mais il devait avoir les moyens de payer le prix. Il devait être suffisamment riche, parce que la loi exigeait que la personne ait les moyens de racheter. Et le même passage que nous venons de lire ici, eh bien, il nous enseigne que le parent racheteur, oui, devait avoir les moyens financiers pour racheter le bien vendu. Est-ce que Boaz était qualifié pour répondre à ces exigences? Il est écrit, chapitre 2, verset 1, « C'était un homme riche et considéré. » Cependant, il n'y a rien dans la loi qui obligeait la personne à exercer son droit de rachat. Il n'y a rien qui obligeait Jésus à nous racheter. Voilà pourquoi il dit, il n'y a personne qui la prend à ma vie, hein, c'est moi qui la donne volontairement. Il n'y a personne qui peut me forcer, et il n'y a personne qui peut m'obliger. Et c'est la même chose ici concernant le parent rédempteur. Il pouvait renoncer à ses droits. C'était un homme financièrement riche, capable d'être son parent racheteur, et Boaz remplissait aussi cette condition. On peut louer le Seigneur ce matin, frères et sœurs, que Jésus-Christ n'a pas renoncé à son droit de rachat. Quand j'ai vu toute cette misère et cette saleté sur la terre, nous pouvons louer le Seigneur ce matin, que Jésus-Christ n'ait pas renoncé à son droit de rachat. Et qu'il a accepté de boire dans cette coupe amère, et de boire jusqu'à la vie, par amour pour chacun de nous. On peut louer et remercier le Seigneur. Que dans son 100% âme, à travers tout ce que les hommes lui ont fait, il n'a pas renoncé. Envers la méchanceté des hommes envers lui. Est-ce que Jésus répondait à cette exigence? Était-il capable de racheter? Dieu a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons, ou même pensons au moyen de la puissance qui agit en nous. C'est pour cela que Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il était plus qu'incapable, il était plus qu'un parent, il en avait les ressources. Lorsque Ruth demande à Boaz d'être son rédempteur, il a répondu oui, car il savait qu'il pouvait la racheter. Lorsque le Père demande à Jésus d'être notre rédempteur, il a répondu oui, parce qu'il répondait lui aussi aux exigences de la loi pour être notre rédempteur. Et un autre point, la loi, elle exigeait aussi qu'il accepte de payer le prix demandé pour racheter. Pas juste avoir les moyens, on peut avoir les moyens sans vouloir payer. Mais la loi demandait non seulement d'avoir les moyens, mais aussi de vouloir payer. Et lorsque Ruth demande à Boaz de la prendre, chapitre 3, verset 9, de le prendre sous sa protection, car cela faisait aussi partie de la responsabilité d'un proche parent, eh bien, Boaz va accepter de faire ce qu'elle lui demande. Il va le faire par amour pour elle. Boaz est une belle illustration, frères et sœurs, de celui qui nous a rachetés, le Seigneur Jésus-Christ. Notre Sauveur a rempli toutes les conditions établies par Dieu, conditions qui étaient nécessaires pour être en mesure de nous racheter. Et il a accepté le prix, il a accepté de payer le prix pour nous racheter. Et frères et sœurs, ce n'est pas, je ne le lirai pas, mais Pierre nous dit que ce n'est pas avec de l'or et de l'argent qu'on a été racheté, mais il a donné sa vie, afin que, par son sacrifice, il en soit délivré, non seulement de l'esclavage du péché, non seulement de l'esclavage du monde, mais aussi de l'esclavage du diable, frères et sœurs. On avait un impuissant ennemi qui cherchait à nous détruire. Et Christ a vaincu le malin. Personne n'oblige à le faire, il l'a fait par amour pour nous. Et Pierre le rappelle aux chrétiens dispersés de son époque. Vous savez en effet à quel prix vous avez été délivrés d'une inutile manière de vivre que vos ancêtres vous avaient transmise. Et c'est vrai, hein? On vit dans un royaume, avant de connaître le Seigneur Jésus, on vit dans le monde. La Bible appelle ça le royaume des ténèbres, bon. Et elle appelle le royaume de Dieu le royaume de lumière. Et on vit dans un monde, et en fait, on suit courant, mais on est vraiment ignorant, quoi, de ce qui se cache derrière tout ça. Quel est le défi pour l'homme, quoi? Et on crée des ambitions dans le cœur des hommes pour oublier, finalement, qu'après la mort, il y a une vie, quoi. Que la mort, c'est pas la fin de tout, quoi. Qu'il y a un Dieu qui existe. Et pour celui qui n'a pas eu son parent racheteur, son parent rédempteur, il devra rendre des comptes à Dieu. Et Dieu a tout fait, en nous envoyant ce rédempteur merveilleux, a tout fait pour nous éviter de passer en jugement. Il a tout fait pour qu'on soit acquitté. Il suffit de demander, de venir avec un cœur sincère et de dire, Seigneur, tel que je suis, je viens à toi, tel que je suis. Seigneur, je te demande pardon pour la vie que j'ai menée. Je te demande de me recevoir, Seigneur, tel que je suis, au nom de Jésus. Mon rédempteur. Jésus est devenu notre proche parent, Philippiens 2, chapitre 5, verset 8. Il ira à la maison. Il a accepté de payer le prix demandé pour nous racheter. Il a donné sa vie comme rançon, nous dit Marc dans son évangile, pour libérer beaucoup d'hommes. Il s'est donné lui-même pour nous racheter de tout péché, faire de nous un peuple purifié qui lui appartienne, à lui seul. Et qu'il soit zélé pour accomplir de bonnes œuvres et les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Hey, frères et sœurs, on vit dans un monde qui est difficile à vivre. On vit dans un monde qui est de plus en plus exigeant. Il n'y a pas de place pour ceux qui ont une intelligence moyenne dans le monde dans lequel on vit. Ceux qui sont choisis dans notre monde aujourd'hui, ce sont les élites. Il faut que ça rapporte. Et même si tu as une intelligence moyenne et que tu n'es pas capable de rapporter avec celui qui a une intelligence supérieure, tu risques de perdre ton emploi, quoi. On va soit te remplacer par une machine, on va trouver quelqu'un de plus intelligent pour te remplacer. Ça, c'est le monde dans lequel on vit. Heureusement que Dieu, ce n'est pas sur la base de notre intelligence qu'il nous a choisis. Heureusement que Dieu ne nous a pas choisis sur la base de nos capacités, mais uniquement sur la base de ce que Christ a accompli à la croix et de la demande qu'on lui fait de nous pardonner nos péchés pour qu'il puisse nous recevoir dans son royaume. Chapitre 3, verset 12. Il y avait juste un problème avec, et je termine avec ce point-là, il y avait juste un problème avec le plan pour la racheter. Et il existait un homme, hein, verset 12, il existait un homme dont le degré de parenté avec la famille de Ruth est plus proche encore. Cela signifiait que cet homme avait le droit d'exercer son droit de racheter Ruth. Répond-il aux exigences définies par la loi? Est-il disposé à exercer cette responsabilité? Va-t-il accepter de la racheter? Eh bien, les versets 1 à 4 du chapitre 4 pour ceux qui ont leur Bible. Il est écrit quoi? Boaz se rend à la porte de la ville où on traitait les affaires et il s'assit. Et là, le plus proche parent d'Élimélec, celui dont Boaz avait parlé à Ruth, passait justement par là. Et Boaz, eh bien, il l'appelle, il l'invite à s'asseoir. Il demande à 10 anciens de la ville de s'installer avec eux pour servir de témoins. Et Boaz appela aux proches parents d'Élimélec, il va rappeler, hein, aux proches parents d'Élimélec, pardon, que Naomi était revenue du pays de Moab et qu'elle mettait en vente le champ qui appartenait à Élimélec. Boaz propose alors de l'acheter devant les anciens et les autres personnes présentes. Il lui dit que s'il veut exercer son droit de rachat, de le faire, sinon ce droit lui revient à lui. Regardez les versets 5 et 6. L'homme lui dit qu'il voulait bien acheter le champ. Alors Boaz lui dit que s'il achète le champ à Naomi, il y a une petite surprise. Tu vas devoir aussi racheter Ruth, la Moabite, pour que la propriété du champ reste dans la famille de son mari décédé, selon ce qui était prévu par la loi. Et l'homme répondit que dans ces conditions, il renonçait. Il voulait bien avoir la terre, mais il ne voulait pas avoir la femme. Alors il renonce, incapable de racheter. Autrefois en Israël, quand les gens achetaient des biens, ou échangeaient un droit de propriété, l'une des personnes ôtait sa sandale et la donnait à l'autre pour conclure le marché. Et ce geste prouvait que l'affaire était réglée. Et la sandale, on la donnait en présence souvent des gens de la ville qui se réunissaient à la porte, parce que c'était là qu'on apprenait les nouvelles. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la TV ni la radio à l'époque. Et on se réunissait tous à la porte de la ville, l'entrée de la ville, et là, on apprenait les dernières nouvelles. Mais aussi, c'était l'endroit aussi pour signer des ententes, régler des cas problèmes. C'était à la porte de la ville. Et au moment où l'homme dit à Boaz d'acheter le champ, il va enlever sa sandale, il va la lui donner. Et ça veut dire quoi? Ça, écoute, je te donne la sandale et devant tout le monde, je te dis que je ne peux pas acheter, mais toi tu peux et elle est à toi. Je ne peux pas l'acheter, mais si tu veux, toi, écoute, elle est à toi. Et je donne ma sandale comme gage, c'est ma signature, je donne ma sandale, il n'y a pas de problème. Quoi. Chers amis, le plus proche parent de nous, pour nous c'est la loi. Elle avait des droits sur nous, mais elle était incapable de nous racheter. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était de nous condamner parce que nous étions indignes à ses yeux. Cette loi déclarait que nous étions pécheurs. Cette loi démontrait que nous étions des pécheurs, que nous avons besoin d'un sauveur, mais ne pouvait pas nous racheter. Voilà pourquoi Paul dit dans Romains que la loi a été donnée à l'homme pour qu'il puisse réaliser qu'il est pécheur, mais jamais la délibérer du péché. Et qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il y a quelqu'un qui était autant qualifié que prêt, autant disponible que capable. Il est écrit, Dieu accomplit ce que la loi de Moïse ne pouvait pas faire parce que la faiblesse humaine la rendait impuissante. Romains 8, 3, hein? Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant son propre fils qui est venu, devenant ainsi notre propre parent, avec une nature semblable à notre nature pécheresse, pour enlever le péché. Notre nature humaine est un proche parent, mais ne peut pas nous sauver. Mais Jésus est capable et prêt à le faire. Béni soit Dieu, il est le parent qui était capable et prêt. Il est notre parent rédempteur. Rédempteur. On voit souvent, moi en tant qu'ancien catholique, je voyais souvent l'Église du Très-Saint-Rédempteur, la paroisse Saint-Rédempteur, mais ça ne me disait rien, quoi. Ça ne me disait rien, parce qu'on ne m'a jamais appris qu'est-ce que c'était un rédempteur. Mais c'est important qu'un rédempteur, pour nous, c'est quelqu'un qu'on ait en tête, que c'est quelqu'un qui a la capacité, qui a les qualités requises pour nous racheter. C'est quelqu'un qui a les qualités requises, selon la loi de Dieu, pour nous libérer. Il ne nous a pas juste rachetés, il nous a aussi libérés de la puissance que le péché exerçait dans nos vies. Voilà pourquoi John Wesley va dire que le privilège de tout croyant, c'est la délivrance du péché. Moi, c'est une phrase qui m'a marqué, ça. Il y a moyen pour le chrétien né de nouveau de ne pas vivre comme les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Parce qu'on a quelque chose de plus. On a le Saint-Esprit qui habite en nous. Et frères et sœurs, c'est votre privilège en tant que chrétien d'avoir reçu la délivrance du péché grâce à ce que Christ a accompli pour vous. Verset 11-12. Hein. Nous voyons deux choses qui sont la conséquence que Boaz devienne le parent rédempteur de Ruth et les conséquences de notre rachat. Verset 11. Tout le peuple était à la porte. Et les anciens dirent, tout le peuple qui était à la porte. Ah, pardon, je l'ai répété deux fois. Nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa. Quelle bénédiction! Qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ébrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Elle n'est plus appelée une Moabite pour la première fois. Elle a été rachetée. C'est plus Ruth la Moabite. Non! On l'a vu il y a quelques semaines, hein? Ouais. Ruth, la Moabite. On ne peut pas sourire quand on prononçait ça, hein? On se rappelait du son peuple qui avait renié Dieu, quoi. Qui vivait dans la débauche. Qui était rempli d'idolâtres. Et on disait, Ruth, la Moabite. Pour la première fois ici dans le livre, on ne prononce plus ça. Elle n'est plus appelée de Moabite. Est-il dit au verset 11? J'ai le bon verset. Que l'Éternel rende la femme, pas Ruth la Moabite, la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa. Oh, mes amis, ouais, c'est plus une Moabite qui rentre. C'est une femme, une personne qui est rachetée par un parent rédempteur. Elle occupe une nouvelle position dans la vie. Elle occupe une nouvelle position dans la communauté. Frères et sœurs en Jésus-Christ, vous n'êtes plus un pécheur. Vous êtes un saint. Vous occupez une nouvelle position. Amen. La rédemption prend les parias, elle prend les rejetés et en fait des membres à part entière de la famille de Dieu. La rédemption d'un pécheur destiné à aller en enfer est transformée en un saint destiné à aller au ciel. Votre vie, elle est changée, elle est bouleversée. Ensuite, regardez la fin du verset 11. La louange du Sauveur est exprimée. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Ils sont en train de dire quoi, en fait? Loué sois-tu pour tout ce que tu as fait. Lorsque nous nous arrêtons et que nous pensons ce que Jésus a fait pour nous, notre cœur veut chanter, à Dieu soit la gloire pour les grandes choses qu'il a faites. Amen. Ce matin, frères et sœurs, Dieu nous a donné un rédempteur, Dieu nous a donné un sauveur. Et pas quelqu'un qui est mort pour nous, qui a 2000 ans. Ça ne s'est pas arrêté là, son histoire. Il est ressuscité, il est revenu de la mort à la vie. Et aujourd'hui, il va habiter dans le cœur de chaque croyant et il va accomplir encore des miracles extraordinaires. Frères et sœurs, votre salut, il a été gagné, pas par vos bonnes œuvres, par l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Et aujourd'hui, je le répète, il est ressuscité, il va habiter au milieu de nous, il va habiter en vous, il va accomplir encore des grandes choses. Et c'est une promesse qu'il fait dans Jean. Chapitre 14, verset 12. Celui qui croit en moi fera de plus grandes choses que moi parce que je m'en vais auprès du Père. On a essayé d'analyser ça à l'étude biblique. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus grand que Jésus? Hey! Moi, je le prends au mot, hein? Méditez-le, ce verset-là, hein? Celui qui croit en moi fera les mêmes choses que moi, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais auprès du Père. Hey! Comme on dit en anglais, hein? The sky is the limit. Hein? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite pour voir Christ agir dans nos vies. Mais il nous demande de marcher comme des enfants du royaume des lumières. Il nous demande de marcher droit. Il nous demande d'être des dignes ambassadeurs de son royaume. Et il dit alors, celui qui croit en moi, celui qui marche dans mes voies, celui qui cherche à se sanctifier à travers la parole, alors il fera de plus grandes choses que moi. Parce que je m'en vais auprès du Père, et moi je vais agir à travers lui. Amen. On est incapable de faire quoi que ce soit par nos propres moyens. Mais en Christ, ah! Il n'y a pas de limite, frère, c'est ça. Prions. Seigneur, merci de nous avoir envoyé, Seigneur, un rédempteur. Merci de nous avoir envoyé un libérateur. Merci de nous avoir envoyé un sauveur. Et merci, Seigneur, d'avoir déposé dans nos cœurs ton Saint-Esprit. Tu nous rappelles que nous sommes tes enfants. Tu nous rappelles que tu veux agir à travers nous pour montrer combien Christ est vivant, combien Christ règne en nous et combien il veut, encore une fois, aujourd'hui, toucher des cœurs, des vies qui vivent des choses épouvantables parce que, Seigneur, ils ne font pas encore partie de ton royaume. Seigneur, nous réalisons ce matin, encore une fois, nous nous rappelons le privilège extraordinaire que nous avons de faire partie de ta famille. Quelle grâce, Seigneur! Merci pour ce privilège. Et Seigneur, que nous puissions faire fructifier, Seigneur, le fruit que tu as déposé en nous, afin qu'il produise en abondance. Et Seigneur, qu'il transcende cette terre pour entrer dans ta présence pour l'éternité. Seigneur, nous ne voulons pas nous arrêter à ce qui rouille et à tout ce qui va périr. Mais Seigneur, nous voulons que notre trésor puisse aussi, Seigneur, transcender cette terre et apparaître dans le royaume. Seigneur, merci encore une fois pour ta parole ce matin. Merci, Seigneur, pour Ruth. Merci pour Boaz. Et merci pour Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen. Chante un dernier cantique terminé. À toi la gloire. Amen. Ah oui, l'offrande. On n'a pas fait l'offrande. Ah oui.